est 6h40, l'heure des enjeux internationaux où en général nous évitons de se faire l'écho, de nous faire l'écho des sondages. Nous ferons exception cette fois pour l'Italie où à quelques jours des élections générales, la coalition de la droite et de l'extrême droite, dont un parti néofasciste Fratelli d'Italia, est crédité de plus de 45% des intentions de vote. Des chiffres qui pourraient se traduire en vertu de la loi électorale italienne par 70% de sièges au Parlement. Giorgia Meloni, la chef de Fratelli d'Italia, est régulièrement évoquée par les médias italiens comme une probable future première ministre. En 2013, rappelons-le, elle pesait à peine 2% des voix. Alors comment s'est élargi l'horizon de légitimité politique d'un parti héritier direct du fascisme? Bonjour Stéphanie Precioso.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, professeure à l'Université de Lausanne. Alors si Giorgia Meloni assure aujourd'hui que la droite a renvoyé le fascisme au livre d'histoire depuis plusieurs décennies, je la cite, vous parlez de Fratelli d'Italia comme d'un parti dans les veines duquel circule encore le fascisme. Alors il faut, pour comprendre, remonter un peu dans le temps, aux racines de Fratelli d'Italia pour voir ce qu'il reste de cette sève fasciste. Et tout commence juste après la guerre en 1946, quand est créé le mouvement social italien. Par qui ?
Alors, il est créé par des fascistes, parmi ceux qui ont suivi Mussolini dans la République fantoche, la République de Salo, appuyée par les nationaux-socialistes entre 1943 et 1945, parmi, disons, la garde la plus rapprochée du fascisme de la dernière période, antisémite, raciste. Donc il est créé par ce personnel politique-là.
Et le Parti National Fasciste, lui, était interdit, ainsi qu'un peu plus tard, au début des années 50, la moindre tentative d'apologie du régime fasciste était interdite dans la loi. Mais avec quel succès ?
Alors justement, la loi, bon, c'est une loi d'application d'un des articles de la Constitution qui interdit la reconstitution du parti fasciste sous quelque forme que ce soit. Donc évidemment, le mouvement social italien qui est créé en 1946 participe en fait de ces différentes formes dans lesquelles le fascisme pourrait réapparaître. Et de fait, les lois d'application, d'abord la loi de 52 de Scelba et la loi de 93 de Mancino n'ont pas été appliquées de fait, aussi parce que on se trouve dans un pays où l'amnistie qui avait été prononcée en 46 contre les criminels fascistes, qui avait fait sortir des milliers d'entre des prisons fascistes, sur le fait qu'il n'y a pas eu d'épuration réelle en Italie, et sur le fait que finalement cette sève-là a pu continuer à circuler sans être trop ennuyée dans les années de la République.
Parce que c'est au sein du MSI, le mouvement social italien, que Giorgia Meloni fera ses premiers pas en politique, mais quand elle le rejoint, donc à la fin des années 90, début des années 2000, comment ce parti a-t-il évolué ? Il y a au moins un renouvellement de génération, par définition.
Alors il y a un renouvellement de génération, mais c'est aussi un parti qui est géré par Fini, qui va
Gianfranco Fini, qui
va être en fait qui va conduire le parti vers une forme de respectabilité. Donc il va d'abord en changer le nom, ça sera fait en 95. La plateforme électorale qu'il présente avec la constellation de droite, avec Silvio Berlusconi en 94, s'appelle déjà Alliance Nationale, mais de fait, le mouvement social italien va se transformer en Alliance Nationale en 95. Et c'est assez drôle de voir avec quelle insistance Giorgia Meloni revient toujours sur cette idée qu'on a renvoyé le fascisme au livre d'histoire. En fait, c'est une phrase qui est tirée du cadre en fait dans lequel le congrès qui fonde Alliance Nationale a placé le fascisme. Donc dans le programme du congrès, il y a justement cette phrase. On va renvoyer le fascisme au livre d'histoire, mais l'antifascisme aussi, le fascisme et l'antifascisme. Et le deuxième aspect de cette de cette idée, c'est de dire que finalement l'antifascisme ne peut pas non plus constituer un horizon politique légitime.
Alors cette phrase prononcée en 95 pour se donner, comme vous le disiez, une respectabilité, Stéphanie Prezioso, elle a été donc prononcée en 95. Gianfranco Fini, il avait pris la tête du parti MSI à la fin des années 80. Lui, il était né en 52, il n'avait pas vécu le fascisme, mais il considérait au début, il disait que Mussolini, c'était le plus grand homme d'État du siècle, jusqu'à changer de discours au fil des années, jusqu'à dire, qualifier le fascisme de mal absolu lors d'une visite à Jérusalem en 2003. Est-ce que c'est ça qui a conduit certains du MSI à l'époque, et Giorgia Meloni en faisait partie, à créer le parti Fratelli d'Italia en 2012? Est-ce qu'il trouvait que Gianfranco Fini avait mis trop d'eau dans son vin?
Alors il y a de ça, il y a le fait que effectivement l'idée d'une respectabilité, d'une recentration de l'Alliance nationale avait posé problème à l'une des bases quand même historiques du mouvement social italien. Il y a aussi le fait que finalement Alliance nationale s'était fondue dans ce qui a été appelé le peuple de la liberté, créé par Berlusconi en 2000, et qui a en fait poussé vers l'extérieur ceux qui ne se reconnaissaient plus dans cette configuration politique-là. Alors une partie d'entre eux, c'est des parlementaires qui fondent Fratelli d'Italia en 2012. L'année 2012 est aussi assez importante parce que c'est juste après les démissions de Silvio Berlusconi, la démission poussée de Silvio Berlusconi, l'arrivée de Mario Monti en tant que gouvernement technique à la tête de l'Italie et donc un passage d'époque important qui est marqué vers l'extrême droite par la création d'un parti qui recentre en fait vers la tradition en définitive du parti.
Donc il y a ceux qui créent Fratelli d'Italia en 2012, il y a ceux qui avant ça s'étaient dissous dans le berlusconisme. On commente, on analyse aujourd'hui les rapprochements entre partis de droite dits traditionnels ou conservatrices et l'extrême droite, fut-elle néo-fasciste. En l'occurrence, le cas italien est très particulier. Mais le berlusconisme, donc dans les années 90 et 2000, était déjà une hybridation, Stéphanie Prezioso.
C'est ça, oui, il y a un politiste italien qui parle de droite plurielle, en fait. Effectivement, moi, j'utilise l'image de Berlusconi en Frankenstein, c'est-à-dire en Dr. Frankenstein, c'est-à-dire qu'il a, rassemblé des droites très différentes, comme la Ligue du Nord, comme le mouvement social italien devenu Alliance nationale. Il a réussi même, y compris, à fusionner avec l'une d'entre elles en 2009. Et il faut aussi se souvenir que la Ligue du Nord de Umberto Bossi, au départ, disait « j'ai rien à voir avec les fascistes », donc il ne voulait pas entrer en communication ou en alliance. En tout cas, c'était le discours qui était prononcé avec les anciens du mouvement social italien. Et néanmoins, cette constellation de la droite là a gardé, avec sous des formes différentes, des noms différents, etc., mais en gros c'est la même, a gardé, s'est constituée en tant que plateforme électorale au cours de ces 30 dernières années.
Et du point de vue plus général de la société italienne, comment expliquer que ça ait pris à l'époque et aujourd'hui ces partis néo ou post-fascistes? Est-ce qu'il faut les lier à un rejet du politique en général, puisque vous avez cité Mario Monti, son gouvernement en 2011 qui remplace un Silvio Berlusconi démissionnaire, et à partir de là, plusieurs gouvernements qui vont succéder et qui ont du mal à se trouver une légitimité.
Oui, il y a, disons, là aussi, c'est une forme de, là aussi j'utilise le terme de suicide de la République. En fait, on a affaire à toute une série de gouvernements techniques. D'ailleurs, Giorgia Meloni, dans sa propagande électorale, utilise beaucoup ça. Toute une série de gouvernements, dont deux techniques, celui de Mario Monti, celui de Mario Draghi, le dernier. Et puis, des gouvernements qui ont été mis sur pied, mais qui n'ont pas obtenu la majorité des voix dans les urnes et qui vont en fait être en quelque sorte le fait du prince, c'est-à-dire du président de la République qui doit trouver des solutions parce qu'à la sortie des urnes, il n'y a pas de majorité pour créer un gouvernement. Et donc, on a effectivement une sensation de ce que les anglo-saxons appellent de disempowerment, hein, donc des classes populaires qui se sentent de moins en moins prises en compte par le politique. Mais disons, ces éléments-là vont nourrir, je dirais, plus profondément l'abstention qui n'a fait qu'augmenter en Italie que le vote pour ce type de configuration là. Et je pense que si on regarde les votes qui sont crédités pour Giorgia Meloni dans les prochaines élections, on se rend compte que Fratelli d'Italia, bon d'abord, elle a fait comme la Lega en 2011, c'était le seul parti à avoir refusé l'union sacrée nationale sous l'égide de Mario Draghi. C'est exactement ce qu'avait fait la Lega en 2011 avec Mario Monti. Elle apparaît comme un parti anti-système, bien qu'elle ait été dans le système au cours des 20 dernières années. Et de fait, elle va rallier, Fratelli d'Italia va rallier une partie des voix des électeurs du mouvement 5 étoiles, je pense, dans le sud et dans le centre de l'Italie, mais aussi une partie des voix qui ont été de tout temps ceux de la Lega qui vont aller vers elle depuis le nord. Donc en fait, elle engrange une partie de la colère, mais c'est pas forcément la colère de ceux qui sont les laissés pour compte, les précaires, les chômeurs, dont on a l'habitude qu'on a souvent l'habitude d'associer à ce type de vote, mais plutôt un électorat qui va se transvaser vers elle, mais qui était déjà bien à droite.
Alors Stéphanie Prezioso, le vote de protestation se traduit par un vote avec les pieds, comme on dit. Vous parliez de l'abstention, elle est déjà forte en Italie, 27% en 2018, ça reste quand même bien moins qu'en France par exemple. Le vote aussi pour le mouvement 5 étoiles, dont les intentions de vote plafonnent aujourd'hui à 14%, mais qui a fait de très hauts scores en 2018. Mais Fratelli d'Italia, comment est-ce qu'on peut expliquer ce vote? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de fasciste encore dans les idées et le programme de ce parti? Qu'est-ce qui apparaît clairement, puisque tout est fait pour... Giorgia Meloni ne cesse de dire qu'il n'y a plus rien de fasciste. Mais comment est-ce qu'on peut contrer peut-être cet argument?
Alors bon, il y a un repli. Bon, on pourrait tout à fait commencer par dire, mais je sais déjà que vous allez me dire c'est pas simplement une question du fascisme et vous auriez raison. Mais on peut commencer déjà à parler des attaques de Giorgia Meloni au droit à l'avortement dans un pays où l'objection de conscience des médecins est extrêmement importante et où des régions entières ne pratiquent pas l'avortement. Donc on a tendance à l'oublier. On pourrait parler de ces attaques aux migrants, du fait qu'elles associent la violence faite aux femmes aux migrations. Bon. Le problème, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas affaire à un programme fasciste dans le sens que vous l'entendez, parce que de fait, c'est des programmes qui ont été et qui circulent dans d'autres veines de la droite européenne, qui sont pas uniquement qui ne se rattachent pas forcément à l'héritage fasciste. Maintenant, en Italie, dans la base sociale de Fratelli d'Italia, il y a eu un très très bon documentaire là-dessus sur ce qui circule de fait. On a affaire à des militants pour qui l'héritage du fascisme est parmi les plus importants. Et donc, même si dans le programme électoral en tant que tel, des éléments de la droite conservatrice apparaissent, comme dans d'autres pays, qu'on ne peut pas forcément qualifier de fascistes, eh bien, dans les veines du parti, de fait, l'héritage est revendiqué. 32% des électeurs de Fratelli d'Italia considèrent encore aujourd'hui que Mussolini était un grand homme. On a affaire, en fait, à cela.
Merci beaucoup, Stéphanie Prezioso, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Lausanne. Il sera très intéressant aussi d'observer la géographie électorale, la carte électorale du vote de dimanche et des votes notamment pour ce parti Fratelli d'Italia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.